D'abord parce qu'il met en lumière ce que nous avons en commun lorsqu'il s'agit de témoigner de sa foi face à un monde qui est de plus en plus sécularisé. Donc nous avons déjà eu d'ailleurs avec le Conseil œcuménique des Églises des rencontres avec des documents communs sur le mariage, la prière, la religion en Afrique. Mais cette fois-ci, la nouveauté, c'est que pour la première fois, nous avons également eu comme partenaire l'Alliance évangélique mondiale. Donc le spectre œcuménique est très large. Ce document n'est pas un document théologique sur la mission, mais il s'attache à aborder les questions pratiques liées au témoignage chrétien dans un monde multireligieux.
Et quelles sont donc les grandes lignes de ce document ?
Alors, ce qui est important, ce sont les principes que nous avons élaborés ensemble, 12 ou 13 points, les recommandations. Nous espérons que elles donneront lieu à des initiatives au niveau des communautés locales. Parce que, il faut toujours insister sur le fait que dans le dialogue interreligieux, ce ne sont pas les religions qui dialoguent, ce sont les croyants. Donc, c'est quelque chose de très concret et il faut espérer que ces principes donneront lieu à des initiatives, disons, pour annoncer ensemble, au-delà de nos divisions, malgré nos divisions, le salut en Jésus-Christ.
Et est-ce que ce document constitue, donc sur ce sujet délicat, vous avez dit du témoignage chrétien dans le monde, une avancée dans le dialogue interreligieux?
Je pense, oui, dans la mesure où nous pouvons dire une parole commune, tous ensemble, sur un sujet qui est quand même, qui a donné lieu à parfois des polémiques. Hein. On accuse les chrétiens d'être prosélytes, enfin, surtout certains groupes chrétiens, je ne dis pas les églises, mais enfin des groupes. Et donc, c'est important de montrer que nous proposons, nous n'imposons pas, nous proposons.
Et est-ce que vous pensez que ce document sera compris par les autres religions ?
Je pense, oui, parce que c'est un document qui est bref, d'abord, et qui me semble très, très concret. Il a comme but, d'ailleurs, d'encourager les églises, le Conseil des églises et les organismes religieux à réfléchir à leurs pratiques actuelles et utiliser des recommandations de ce document pour préparer, là où c'est utile, des directives propres à leur communauté sur le témoignage et la mission auprès des membres des différentes religions. Et d'ailleurs, même auprès de ceux qui ne pratiquent pas de religion. Car je crois que ce qui est important, surtout après la réflexion du pape Benoît XVI sur ce qu'on appelle la cour des gentils, de penser aussi à ceux qui n'ont pas de religion, mais qui cherchent la lumière, qui cherchent l'absolu. Donc je crois que là aussi, on trouve dans ce document beaucoup d'éléments qui sont capables de guider ce dialogue.
Très bien. Est-ce que vous avez un message à adresser aujourd'hui ?
Le message, ce serait de montrer que finalement, les religions ne sont pas du tout un facteur de division, mais au contraire, un facteur d'unité, non seulement pour les réalités spirituelles, mais pour les réalités aussi de la vie de chaque jour. Et lorsque les croyants s'assoient, s'écoutent, eh bien, je crois qu'ils réalisent qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun qu'ils ne pensent. Et c'est ce patrimoine commun, nous devons le mettre à la disposition de la société. Parce que le dialogue interreligieux, ce n'est pas seulement un dialogue qui a pour de consommation interne, mais il est aussi orienté vers la société. Ce patrimoine de valeurs chrétiennes, nous devons le mettre au service de la société pour justement faire de cette terre un lieu où il est bon de vivre ensemble.